C'est curieux la mémoire, vous savez. Il y a des trucs qui restent étonnamment précis, on ne sait pas pourquoi, et d'autres qui disparaissent. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai 87 ans, je vais claquer un de ces jours. Non, mais c'est vrai, je suis à la fin de ma vie. Mais peu importe. Bon, moi, je n'ai pas honte d'avoir vécu. Hein. J'ai bien vécu. J'ai bien vécu, non, pas au sens trivial. J'ai beaucoup vécu. Parce que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait avec passion. Je suis un type qui ne peut vivre que dans la passion. J'ai eu la passion du jardinage. J'ai eu la passion ensuite de l'enseignement. J'ai eu la passion de faire connaître, de transmettre, voilà, ce que je savais. Donc ça m'a permis de faire, ça m'a fait une belle vie, je trouve. Et c'est pour ça qu'elle me fascine, parce que maintenant, personne ne ferait plus cette vie-là. Le monde, le milieu, la société s'y opposerait farouchement. À dire vrai, je n'ai rien choisi dans ma vie. Je n'ai pas choisi mon nom, je n'ai pas choisi le jour ni l'heure où je suis né, je n'ai pas choisi le lieu où je suis né. Je n'ai rien choisi. Je n'ai rien choisi. La vie est arrivée comme ça. Elle s'est faite. Si j'ai choisi des choses quand même, enfin, faut pas que j'exagère. Mais enfin, c'est vrai que je n'ai pas. Comment j'allais dire, que je n'ai pas choisi grand-chose. Par contre, la particularité de ma vie, telle que je la vois, parce qu'en réalité, je ne vais pas vous cacher tout de suite, même si ça paraît très vaniteux, par vous dire que, sur le tard, je me suis retrouvé fasciné, je crois que c'est le mot, par la vie que j'ai eue. Bon, alors pourquoi ? J'ai cherché à savoir pourquoi. Et je me suis rendu compte, c'est maintenant que je m'en rends bien compte, surtout d'autant que l'écriture m'aide beaucoup. En écriture, il faut être précis. Puis il faut chercher, il faut un peu se creuser les méninges. Il faut dire pourquoi. Et donc, je me suis aperçu que finalement, je suis né en 1925, mais j'ai traversé pratiquement 4 guerres. Quand j'étais gamin, moi je suis originaire, vous êtes de la Mayenne, moi je suis du Loir-et-Cher. J'ai eu une enfance villageoise, avec tout ce que ça comportait de positif et de négatif. Négatif parce qu'on était regardé, écouté, espionné par tout le monde. On ne s'appartenait pas. La vie de village, c'était une oppression quasiment permanente. Donc, je vous dis que j'ai connu 4 guerres parce que, bon, la guerre de 14, ça va de soi. Mon père avait fait la guerre, mon oncle, celui dont je porte le nom, a été tué en 14, et puis encore dans les années 30, il y avait toutes les commémorations, il y avait les récits d'anciens combattants, il y avait tout ça. On baignait là-dedans. Moi, je faisais la guerre dans le jardin où j'étais élevé. Je m'étais fabriqué, je crois, parce que je suis tellement maladroit de mes mains, mais une espèce de mitrailleuse en bois. Ma grand-mère, qui est la personne qui m'a élevé, puisque j'ai perdu ma mère très jeune et que mon père ne s'est pratiquement jamais occupé de moi, ma grand-mère m'avait taillé une culotte, vous savez, on portait des culottes courtes, dans un pantalon bleu horizon qu'un sous-officier lui avait donné. Alors cette culotte, c'est le tissu bleu horizon, je ne sais pas si vous n'avez jamais eu l'occasion d'en voir ni d'en toucher. Et c'est extrêmement rêche. Et ça m'irritait les cuisses, cette saloperie. Mais ça a fait que je m'en souviens. La guerre de 70, je la connais. Je la connais. Elle m'a intrigué dès mon enfance, d'autant, oui. D'autant qu'il y avait chez le boucher du village un sabre de Hulan qui avait été ramassé après la bataille par le père de ce boucher qui avait à l'époque déjà plus de 70 ans. Et donc voilà, aucun autre élément matériel, personne ne se souvenait de rien. Personne ne parlait de la guerre de 70 sauf au cimetière, il y avait un tombeau avec une dalle dont je soupçonnais, mais j'ai eu confirmation bien après, que c'était la tombe d'un soldat prussien, d'un Uhlan. Il y avait son nom d'ailleurs. Et moi, gamin, je dansais sur sa tombe, je trépignais, voilà. Voilà pour la guerre de 70. Vous savez, une chose qui me frappe maintenant, c'est le peu d'écart qu'il y a entre ces trois guerres. Vous savez combien il y a entre 14 et la guerre de 40 ? Il y a 22 ans. C'est trois fois rien. Entre 70 et 14, il y a combien ? 34 ans. Donc, vraiment, j'ose dire... Alors bon, je continue mon propos. Je vous ai dit quatre guerres. Peut-être que j'en mets une de trop, d'ailleurs. Trois, à coup sûr. Parce que la guerre de 40 nous a pété au nez. Ensuite, il y a eu l'occupation. Bon. Donc, j'ai vécu tout ça. Ce qui fait que quand je me retourne sur mon passé, qui, comme je vous l'ai dit, me fascine un peu, je me rends compte que je suis un enfant de l'histoire. Mais c'est vraiment les guerres, et à travers, il n'y a pas eu que les guerres, il y a eu bien d'autres choses, il y a eu la guerre d'Espagne, le Front populaire, l'occupation. Est-ce qu'on peut appeler ça une guerre ? Pas franchement pour les Français, je ne crois pas. Vous me direz qu'il y a eu un certain nombre de résistants. C'est vrai. Et ceux-là, il ne faut pas les oublier, mais on en parle beaucoup, et si vous voulez mon avis, on n'en parle pas très bien et on en parle trop. Je vous vois tiquer. On a eu tendance, ça c'est le travail du général de Gaulle, on a eu tendance après 40 à gommer, je dirais, la responsabilité de ceux qui n'ont pas fait de résistance. C'était l'écrasante majorité. Et les résistants, c'était la grande, grande minorité où j'en étais.
Vous en étiez à la perception,
oui,
de la résistance et sa réalité.
Bon, je n'en ai pas fait. Je pourrais en avoir honte. Mais comme je n'en ai pas fait, je ne vais pas non plus me mettre en valeur maintenant en disant « Moi, je n'ai pas fait de résistance. » Je n'en ai pas fait parce que, ben, je ne sais pas. Les Allemands vont gagner la guerre, ça ne fait pas de doute. On a vécu là-dedans pendant 4 ans. C'est long, 4 ans. Vous savez, quand on est gamin, moi j'étais adolescent, j'avais 15 ans en 40. Vous savez que on avait bien le sentiment de bousiller notre adolescence, qu'on n'en aurait pas.
Déjà, il y avait une claire conscience.
Oh oui, on le sentait bien. On ne pouvait pas danser, on ne pouvait rien faire. Tout était interdit. Tout était interdit. Finalement, on attendait la fin de la guerre. On était comme les héros de Beckett. On attendait. J'ai passé 4 ans à attendre. L'occupation, je l'ai vue, bien entendu. J'en ai même un peu souffert, surtout de la faim. J'étais lycéen, on n'avait pas beaucoup à manger. Chaque dimanche, je ramenais de chez mes parents une petite demi-livre de beurre et un peu de sucre, c'était tout.
C'était quoi cette réalité de ne pas avoir à manger ou pas assez à manger ? C'était concrètement, c'était quoi ?
Alors, je vais vous le dire, parce que j'en ai un souvenir très précis. Nous avions par jour 3 tartines de pain à manger. Ça fait à peu près 150 grammes. On avait faim. Et j'ai connu la faim depuis le lycée, donc, disons pas 40, mais 41, 42. J'ai connu ça jusqu'en 47.
Est-ce que ça veut dire que, tout simplement, vous vous réveillez le matin et la notion de « j'ai faim, je... »
Ah oui, on était pressé d'aller manger. Ah, on était pressé d'aller au petit-déj. Et à midi, pareil, et le soir, pareil.
Voilà, donc c'était...
On n'était pas affamé, mais on avait toujours un peu faim. Parce que
toujours un peu faim.
Oui, voilà. Ben oui, on n'avait pas grand-chose.
Hein. Est-ce qu'il y avait des gros à l'époque ?
Des gros ? Non. Alors, vous avez fait des allusions au marché noir. Marché noir, non. Je n'en ai pas été témoin. Ça existait, bien entendu, on le savait tous. Mais moi, directement, non.
Difficile de l'interrompre, Bernard, mais nous allons le retrouver, Antoine Blanchemain, dans ce monologue, mais vous êtes très présent, malgré tout. Rappelez-moi son âge.
87 ans et demi.
87 ans et demi, ce qui est frappant, et ça n'est pas le seul, c'est l'importance du souvenir de la guerre.
On y reviendra, il y reviendra. La première partie de son existence, c'est-à-dire jusque dans les années 55, même si il lui arrive de parler du reste de son existence, mais il semble que ce soit franchement le noyau de sa vie, et tout au long de nos rencontres, il va y revenir systématiquement. Donc on reviendra au fil des interviews sur la guerre, sur la résistance, sur l'occupation, sur sa jeunesse, sur son enfance, sur sa filiation.
Il arrivera... Alors d'une part c'est quand même le propre de l'âge. Lorsqu'on prend de l'âge, on retourne volontiers dans le passé. Est-ce qu'il pourrait y avoir cette part, puisqu'on l'entend dire, finalement la France, dans sa grande majorité, n'est pas entrée dans la résistance, moi non plus. Est-ce que vous avez senti, par exemple, qu'il le regrettait aujourd'hui ?
Oui, alors il regrette pas tellement d'avoir eu cette réaction, parce qu'il la resitue dans le contexte.
Il est très jeune, de toute façon.
Oui, mais il la resitue dans le contexte, c'est-à-dire qu'en gros, il n'était pas le seul. Mais on écoutera, je ne sais plus si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, on verra qu'il ne se pardonne pas de ne pas avoir réagi devant certaines scènes qu'il nous décrira. Et la voix se brisera à plusieurs reprises. C'était extrêmement émouvant de voir ce vieux monsieur avoir autant d'émotions et une émotion intacte à l'évocation de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu entre 15 et 20 ans.
On l'écoute tout de suite. Ouais.
Comment se vit cette adolescence ? Comment, ce qu'on va appeler pudiquement l'éveil à la vie, ça se passe comment ? Dans un temps comme ça, un temps d'occupation, un temps...
C'est la merde. Pas de filles. T'as interdit les filles. C'était interdit. Pour elle, les garçons étaient interdits. Quand je suis allé au lycée, les gens achetaient le journal pour voir si j'étais au tableau d'honneur. On publiait à l'époque le tableau d'honneur de chaque classe dans le journal régional, qui s'appelait La République du Centre.
Nos jeunes auditeurs ne savent pas ce que
c'était
les tableaux d'honneur.
C'était un tableau mensuel dans lequel on citait les meilleurs élèves, premiers ou secondes, dans un cours quelconque. Je crois que c'était à peu près ça la définition. Alors, au-dessus du tableau d'honneur, pour les très méritants, il y avait les félicitations du conseil de discipline du lycée. Et tout ça, je crois, était publié dans le journal régional.
Et avez-vous été publié ?
Ben oui, j'étais au tableau d'honneur au moins pendant 2 ans. Jusqu'à ce que je devienne, pas un cancre, mais un élève médiocre.
Tiens.
Oui. Je me pose encore la question, voyez-vous.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Mais il s'est passé quelque chose. Par exemple, je n'ai jamais pu réussir un problème de maths. Et là, j'accuse directement le prof de maths que j'ai eu en 4e.
Il s'est passé quoi ?
Rien, il m'a pris pour un imbécile. On avait un devoir de géométrie à remettre.
Il y a eu un événement particulier.
Oui. Et alors, je n'apprenais sans doute pas bien mes leçons, même pour pas dire pas du tout, mes leçons de maths. J'étais brillant en anglais, en français, tout ce que vous voulez. En histoire géo, n'en parlons pas, tout allait mieux que bien. Et là, je n'ai rien trouvé de mieux pour aller à la démonstration qu'on nous demandait de faire que de faire un long développement littéraire. Le prof m'a pris pour un demeuré, quoi.
C'était...
Il me l'a fait sentir. À partir de là, ça a été fini. Hein.
Comme quoi, quand on est adolescent, une parole peut orienter. En nous rappelant, puisque on le dira peut-être à un moment ou à un autre, je crois que vous avez été enseignant, les mathématiques ne se conçoivent que s'ils sont bien énoncés. Et l'énoncé d'un mathématique, que je sache, c'est quand même du français.
Et du français précis, si possible.
Donc, c'est quel contresens que de taxer...
Oui, oh que...
À littéraire d'impossibilité
de... En plus, c'est un manque d'humanité, de compétence totale. Mais Quelques années plus tôt, j'étais encore à l'école primaire, nous avions un instituteur que j'adorais et qui me le rendait bien. Et un beau jour, à la fin de la classe, enfin au mois de juillet, au moment des vacances, des grandes vacances, il nous annonce qu'il est nommé ailleurs, qu'il ne reviendra pas. Pour moi, ça a été un choc énorme. D'autant qu'à la rentrée, tenez-vous bien, nous avons eu un remplaçant, bien entendu, qui sortait de l'école normale. Et nous avions quelques marches d'escalier à gravir pour entrer dans la salle de classe. Cet instituteur nouveau était au sommet de l'escalier et nous regardait monter. Et en me voyant, il m'a dit « Toi, je t'aurai à l'œil ». Je n'ai jamais compris pourquoi. Alors, pensez ce que vous voudrez. Ça ne m'a pas... Ça, si, je crois qu'au point de vue scolaire, ça m'a altéré quand même.
Est-ce que c'est quand même pas la preuve, s'il en fallait une, que les apprentissages se font en grande, grande partie par le spectre de l'affectivité ?
Oh ben oui. Ah ben c'est clair.
Peut-être pas pour tout le monde.
Ça n'est pas assez clair pour tout le monde.
Ça n'est pas... C'est-à-dire que ce n'est pas une démarche intellectuelle, c'est une démarche affective.
Absolument. C'est d'abord ça. On va sauter quelques dizaines d'années. Et quand j'ai été à mon tour enseignant en Vallée française, j'ai réussi à créer ce lien. Parce que j'avais des gamins de 14 ans qui étaient promis soit à prendre la succession du père à la ferme, soit à devenir cantonnier, facteur dans le meilleur des cas à Paris, etc.
Est-ce que vous étiez un instituteur agricole ?
Oui, personne ne sait plus ce que c'était.
Eh bien, apprenez-nous.
Alors, on va ouvrir une parenthèse qui est un peu politique. L'Église catholique, en Bretagne, je crois, enfin, moi, c'est le souvenir que j'ai, avait créé pour les fils d'agriculteurs une formule d'enseignement qui était, je le vois maintenant, extrêmement intelligente. C'est-à-dire que les gamins, post-scolaires, hein, nous sommes toujours après 14 ans, ils étaient pris pendant 8 jours en pension et 8 jours à la ferme. C'était un enseignement par alternance et qu'on vient de découvrir à nouveau. Hein ? Donc, face à l'Église catholique, l'éducation nationale a voulu faire pièce et a inventé ce concept des instituteurs itinérants agricoles. C'est-à-dire des gens qui avaient un jour de classe par semaine à assurer dans un centre, quelque part. J'ai eu un centre à Sainte-Croix, un autre à Saint-Étienne, un autre à Bar, un autre au Collège d'Aise, un autre à Saint-Germain, bien entendu, où j'habitais. Bon, on avait 3 mois de classe à assurer. Le recrutement, je ne vous dis pas. Les élèves, je les ai attrapés au lasso. Parce qu'il fallait convaincre les parents. C'était leur main-d'œuvre qui s'en allait. Alors, il fallait les retenir. Il fallait les convaincre que c'était leur intérêt aux gamins de suivre mes cours. J'ai commencé à devenir un véritable prédicateur. J'ai été d'ailleurs un prédicateur pendant des années. J'ai été à ce moment-là, dans les années 50 et quelques, porté par quelque chose qui n'a guère idée aujourd'hui, qui s'appelait le progrès technique dans les campagnes. Alors, la mécanisation n'avait pas encore fait son apparition. Moi, j'ai connu des gens à Saint-Romain qui n'avaient en tout et pour tout comme matériel agricole qu'une moto faucheuse. Donc, à l'époque, on a inventé l'agriculture, j'allais dire moderne, mais le mot est déjà périmé, hein. L'agriculture intensive. Alors, les herbicides, les pesticides, les engrais, l'alimentation rationnelle, tout le bazar, on appelait ça la vulgarisation du progrès technique. J'ai été un vulgarisateur. Voilà. C'est-à-dire que j'avais des revues agricoles, je suivais des cours, etc. Et je régurgitais ça auprès de mes élèves. Ajoutez que j'ai toujours été... Je suis très maladroit de mes mains, mais enfin, apprendre à greffer, c'est pas très difficile, hein. Vous avez un bon bouquin avec des bons dessins, le lendemain, vous savez greffer un pommier ou un poirier. Alors, j'ai eu vraiment la passion de cet enseignement. J'avais le sentiment que c'était vraiment, comment dirais-je, le progrès vraiment vers l'avenir que je véhiculais. Il faut vous dire qu'à l'époque, le désespoir dans les Cévennes était total. Les châtaigniers mouraient, les cocons, les verrassois ne se vendaient plus du tout, il n'y avait aucune espèce d'économie de marché. Les gens ne vendaient rien. Ils vendaient les châtaignes, ils vendaient les verrassois. Et surtout, ce que les gens aujourd'hui qui se permettent d'écrire sur l'économie de ces années-là, moi, ils me font ricaner. Ils oublient toujours une chose, c'est que les Cévenols faisaient deux saisons à l'extérieur. Ils faisaient une saison pour les moissons et une saison pour les vendanges. Ils venaient aux Pays-Bas, ils se louaient pendant 15 jours, 3 semaines, et ils ramenaient de la monnaie à la maison.
Ce que vous appelez le Pays-Bas, c'est pas la Hollande.
Non, c'est Anduze, c'est...
La plaine.
La plaine. Donc, j'ai véhiculé ces valeurs, il faut bien les appeler comme ça, avec une passion qui était, d'une part, la passion de découverte intellectuelle que je pouvais faire à travers mes lectures, et d'autre part, à travers l'attachement que j'avais pour les Cévennes depuis 1948, 50, 51. Puisque je suis arrivé en Cévennes un peu par hasard, mais c'est immédiatement considéré que ce pays était le mien et le serait toujours.